Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cette plante, c'était un peu pour moi la métaphore de la sorcière. Ces femmes savent trop de choses sur la santé les unes des autres. Ces femmes ont un instinct, donc on va les brûler parce que c'est des sorcières. Ça m'a fait le même effet. C'est, elle en sait trop, elle peut trop en faire. Elle peut trop remplacer des médicaments et on peut pas se permettre ça. Elle peut trop remplacer des grandes entreprises, des grandes industries et on peut pas faire ça. Donc on va l'interdire.
De là à dire que les sorcières de l'époque mitonnaient de bons chaudrons de potions magiques à base de weed, il n'y a qu'un pas que j'ai bien envie de franchir.
Et la brosse de leur balai, hein, Christophe, tu crois qu'elle est en quoi? Bah, elle est en chanvre.
Notre invitée du jour, elle n'enfourche pas de balai et ne prépare pas de potions, quoique sa magie opère principalement sur Internet. Et depuis qu'elle a découvert les pouvoirs du cannabis, sa puissance est comme décuplée.
Elle est comédienne, scénariste, vidéaste, influenceuse et militante féministe. Elle s'appelle Marion Séclin. C'est l'épisode 37 de Banana Cush.
Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel?
Des bananes.
Vous en voulez?
Oh non, merci.
Moi, avec plaisir.
Le trafic de la banane connaît une embellie.
Une drogue interdite.
La banane tient la première place.
Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette.
Rien ne peut résister au lobby de la banane.
C'est un fléau!
Nick, la radio présente Banana Cush, le podcast de culture du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet.
Alors attends, Camille, t'as dit comédienne, scénariste, vidéaste, influenceuse, militante féministe. Elle fait combien de métiers exactement, Marion Séclin?
Alors, j'ai pas compté précisément, mais si je devais la définir en quelques mots, je dirais que c'est une enfant d'Internet. On l'a découverte dès 2012 sur la chaîne YouTube du site Mademoiselle, puis elle a rejoint la team du studio Bagel, toujours sur YouTube, et aujourd'hui elle est très active sur Instagram, hein, plus de 350 000 abonnés.
Wow, presque comme Banana Cush. Et s'il y a quelque chose qui traverse absolument tout ce qu'elle fait, c'est son engagement féministe. Bien avant MeToo, elle réalisait des vidéos sur le harcèlement de rue, sur la sexualité féminine, ce qui lui a valu d'ailleurs un très violent cyberharcèlement, des dizaines de milliers d'injures sexistes et des menaces.
Cette expérience que partagent malheureusement beaucoup de féministes actives en ligne, elle l'a racontée dans un TEDx en 2017. Aujourd'hui, Marion Séclin joue aussi dans des séries télé. Elle produit des podcasts, elle a même créé une super série diffusée il y a quelques mois sur France TV/ Diana Boss. C'est l'histoire d'une jeune avocate hyper badass qui, la nuit, participe à des battles de rap.
Alors, on a rejoint Marion Séclin chez elle, en banlieue parisienne, et on a longtemps discuté CBD, pression sociale, sorcière et révélation botanique.
I'm a banana, I'm a banana.
Tiens, Jamie, goûte-moi cette petite banane, tu m'en donneras des nouvelles.
Salut Marion Séclin.
Salut.
Merci de nous recevoir chez toi.
Ça fait un petit bout de temps qu'on essaye de t'avoir, donc on est ravis que ça se concrétise aujourd'hui.
Moi aussi. Et alors, il y a 2 ans, je vous avais répondu genre c'est trop sympa, mais non. Parce qu'en fait, je ne suis pas consommatrice de substances illicites. Pour la simple et bonne raison que je crois que c'est un truc qui arrive dans ta vie parce que quelqu'un te met le pied à l'étrier à un moment. Au début, tu connais pas, puis quelqu'un t'en parle, puis quelqu'un te fait essayer. Et j'ai jamais eu un entourage comme ça. Genre, j'avais pas énormément d'amis.
Méga rare. Mes amis m'appellent Meg. L'ennui, c'est que je n'ai aucun ami.
Pas beaucoup de gros sorteurs, pas beaucoup de fumeurs. Donc, j'ai jamais eu l'occasion. Personne m'a jamais dit « Allez, viens, on essaye ». Mais quand en face de toi, t'as des gens qui te font « Oh, mais t'as jamais essayé ça ?» Pour me défendre, je suis rentrée dans une sorte de... Tu sais, je me suis drapée dans une sorte de dignité pour justifier, qui était limite de dire « Moi, j'ai pas besoin de ça, en fait ». Enfin, c'est bien simple, je suis au-dessus de ça, je sais m'amuser sans. Plus on m'en parlait et plus on me disait « Ah bon ?» avec un peu de surprise, plus j'étais là, genre « Ce sont les faiblards qui font ça ».
Mais c'est une pure posture ou ça correspond aussi à une réalité chez toi?
C'était une posture de défense, tu vois. J'étais pas une posture que j'ai réfléchi. C'était genre, on me critique parce que je consomme pas ça. Et en fait, c'est moi qui vais critiquer les autres et qui vais les shamer pour le fait de le consommer. Donc, je me plaçais en condescendante. Je n'ai pas besoin de ça.
Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer.
C'est Leviosa. Et pas Leviosa.
Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente.
Alors, il y a 2 ans, quand on t'a invité, t'avais effectivement répondu que tu ne consommais pas de produits illicites et pas de cannabis. Aujourd'hui, t'as accepté notre invitation.
Ouais.
Est-ce que les choses ont changé ?
Elles ont changé, oui et non. Elles ont changé dans un cadre, c'est que maintenant, je consomme des fleurs de CBD et du CBD sous toutes ses formes. Et que surtout, j'ai beaucoup appris sur le chanvre. Et j'ai beaucoup appris aussi sur la weed et sur le THC. J'ai eu la chance de pouvoir visiter des champs de chanvre qui sont en Bretagne, découvrir qu'avec le chanvre, on peut tout faire. Mais quand je te dis tout faire, c'est tout faire. Tu peux faire du textile, tu peux faire du plastique avec, et qui est du plastique qui n'est même pas biodégradable, qui est encore plus que ça, que tu peux faire de l'huile, que tu peux utiliser les graines, que tu peux faire de la farine, donc que tu peux faire avec des pâtes. Ça contient plus de protéines que la viande. Enfin, tu peux tout faire avec du chanvre.
C'est incroyable, ça coûte presque rien. Et avec ça, on lave le sol, la vaisselle, les carreaux et même les lainages. Génial, non ?
Il y a aussi eu ce truc par rapport au THC, où moi, je n'étais pas fanat de l'expérience THC. Ça m'est arrivé très peu. La première fois, genre, ça m'avait déplu. Et la deuxième fois, j'avais vomi. Et donc, ce n'est pas quelque chose que je consomme. Mais il y a eu un switch quand j'ai compris que la seule raison pour laquelle on avait tellement diabolisé le chanvre en général et la weed en général, c'était pour des questions stupides de racisme et d'ignorance. Et je me suis rendu compte, ma mère a eu un cancer du sein. Et à l'époque, elle faisait que de la radiothérapie, mais dans ses douleurs, elle avait des antidouleurs. Et je me dis, putain, si à cette époque, j'en avais su autant sur la weed, mais j'aurais été la première à l'encourager à l'utiliser de manière médicinale. D'un coup, mon regard a changé. J'étais plus drapée dans mon « bah moi, j'en ai pas besoin ». Et donc là, je me suis dit « mais j'ai été un con, en fait ». Et j'ai été un con.
Mon Dieu, comme j'ai été sotte. J'ai cru que...
Nous avons été sottes, toutes les deux.
Il y a aussi eu le fait que dans mon entourage proche, ceux qui en fument tous les jours ont un fonctionnement tout à fait viable avec ce produit. Je comprends aujourd'hui mes amis qui ont mon âge et qui en fument régulièrement et qui me disent « moi, ça me calme parce que je pense beaucoup trop et c'est chiant ». Et je l'entends et je le comprends. Ces gens-là ont appris à fonctionner avec et ça leur offre le recul que pourrait offrir un antidépresseur ou un anxiolytique à n'importe qui d'autre. Je sais que ça a un pouvoir addictif. Ce qui m'énerve dans cette histoire d'addiction, c'est qu'on est addict à tout un tas de choses qui sont des béquilles émotionnelles, psychologiques ou quoi, et qui, comme ce n'est pas des plantes qui poussent du sol et qui sont psychotropes, bah en fait, on ne nous accusera jamais pour ça. On dira jamais à une de nos potes ou à un de nos potes, en fait, t'es accro à la séduction.
Ne tombe pas là-dedans, ça peut devenir une vraie drogue.
Genre, tu t'en as besoin comme d'un remède. Genre, ça te fait ta dose te plaire et c'est pas bon pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Et en remettant tout ça en perspective, je me suis dit, peu importe en fait. C'est surtout l'aspect moral et moralisateur que je finis par haïr derrière les tabous autour de du chanvre et de la weed principalement.
Rendez-vous compte de ce qui se passe en fait. On est dans la matrice. Là, c'est cyberpunk.
Tu nous as dit que tu n'as pas grandi dans un environnement où on t'a un jour proposé de fumer un joint. C'est presque une exception, je pense, que la plupart des adolescents en France traversent ce moment où, voilà, 14-15 ans, la weed et le pétard commencent à apparaître dans leur univers. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel univers toi t'as grandi et comment ça se fait que tu n'y as pas été exposé ?
J'ai grandi dans le 11e arrondissement, j'avais pas énormément de copains. Je j'arrivais pas à m'intégrer dans les groupes, donc je me faisais souvent bolosser. Je dis bolosser pour pas utiliser le gros mot harcèlement scolaire, mais j'ai pas gardé de connaissances trop de ce moment-là de ma vie. Et en fait, j'ai mis du temps dans ma vie à rencontrer mes amis qui sont encore mes amis aujourd'hui, des gens qui vraiment sont le cercle proche. Et c'était pas des personnes qui en consommaient. Alors, on me l'a proposé 2 fois dans mon adolescence. La première fois, j'étais en vacances au ski. Je devais avoir une petite quinzaine, peut-être. On va dire à peu près ça. Et j'étais avec des jeunes de mon âge qui étaient les enfants de quelqu'un de ma famille. Et pour le coup, ils avaient du shit. Et ils ont dit, genre, viens, on fume. Et moi, qui ai toujours peur de pas réussir à m'intégrer dans les groupes, je suis là, grave, carrément.
Je ne suis pas bien à l'aise, je ne me sens pas très à l'aise.
J'aurais aimé me sentir assez à l'aise pour dire, juste sachez, c'est ma première fois, histoire que ce soit un environnement safe. Mais le problème, c'est qu'à cet âge-là, quand tu dis « au fait, c'est ma première fois », c'est pas un environnement safe que t'as autour de toi, c'est un environnement moqueur. Donc j'étais là, ouais, grave, trop, wesh, wesh, le shit, yeah. Je tire 2-3 tafs sur le joint qui passe, et je me souviens de cet état léthargique qui, en fait, me plaît pas, qui me ralentit, qui m'alourdit, et où je me souviens que j'avais rigolé, et que c'était pas un mauvais moment, mais à aucun moment je me suis dit, genre, trop kiffant. J'étais plus à l'inverse en train de dire « j'aime bien que mon cerveau soit pas sur pause » et là, genre, c'est désagréable.
Mais ce que j'entends aussi, c'est que tu es quelqu'un qui ne trouve pas de plaisir dans la perte de contrôle et dans la déconnexion du monde réel qu'on peut avoir avec le cannabis, mais aussi avec d'autres psychotropes.
C'est pas tant le problème de perte de contrôle, parce que j'apprécie la perte de contrôle, le fait d'être pompette parfois, d'améliorer ma capacité à sociabiliser comme une béquille qui me permettrait d'être moins tendue sur les choses. Et c'est pas tant un souci de perte de contrôle, c'est le souci d'alourdissement. Et en fait, d'inutilité, c'est comme si j'en avais pas tiré assez de bénéfices. Si je dois consommer quelque chose qui change mon attitude, je veux que mon comportement soit genre méga joyeux, méga enthousiaste, qui me motive. Ça me rendait comme un caillou, quoi. Et j'étais consciente d'être un caillou. J'avais aucune pensée qui m'apportait quoi que ce soit, quoi.
Deviens génial ! Deviens génial, deviens génial.
Je suis un caillou.
Ensuite, j'ai plus l'occasion d'avoir une expérience jusqu'au lycée, je crois, où je suis en première. Et donc, j'ai entre 16 et 17 ans. Et où, avec des filles de ma classe, on fait une sorte de soirée pyjama chez l'une d'elles qui a une grande maison en banlieue parisienne et ses parents sont pas là. Et pareil, on refume un joint. Et je finis par me sentir pareil, donc alourdie, un peu molle, avec une impression que le temps se dilate, puis rétrécit. On était en train de regarder un spectacle, c'était un spectacle en DVD de Jamel Debbouze. Et vraiment, genre, je suis un peu dans mes vapes, et là, d'un coup, j'ai une nausée, et donc je vomis. Il faut savoir que je suis hémétophobe, c'est-à-dire que j'ai peur du vomi en général. Mais j'ai pas genre peur du vomi comme on a peur des araignées. C'est-à-dire que pendant 2 à 3 jours, si j'ai vu quelqu'un vomir, je suis en position fœtale à me balancer. Je ne pense qu'à ça, je ne vois que ça. Moi, pour le coup, ça me crée vraiment un choc. Donc d'un coup, ça m'a fait l'effet de... comme quand t'as mangé un aliment qui t'a rendu malade et qu'ensuite, jusqu'à la fin de ta vie, tu te dis plus jamais cet aliment.
Un traumatisme avec la weed, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est genre, ben en fait, non, ça ne sera pas pour moi.
Non, merci, je choisis de vivre.
Très récemment, j'ai pu essayer ce que les Américains appellent les edibles, qui sont donc les pâtes de fruits avec du THC. Et alors moi, en l'occurrence, celle que j'ai prise était mélangée au CBD. Donc c'était un petit moite-moite parce que je reste quand même, tu sais, genre... sur mes gardes.
C'était la première fois que tu retestais du THC depuis ton vomi.
Ouais, okay. Exactement. Et j'essaye et je me rends compte de l'énorme différence que c'est de le fumer et de le manger. Et je passe une soirée extraordinairement drôle. Une soirée dans laquelle j'ai plein d'idées complètement farfelues, au point que je les note toutes et que je me dis, faut que je voie demain s'il y en avait qui valaient quand même la peine. Mais tu sais, ce truc où c'est comme si ça avait décoincé un petit endroit dans mon cerveau qui se permettait pas de penser certaines choses et où là, tout pouvait passer. Et ça m'est réarrivé de le faire 2-3 fois. Une fois, j'ai fait avec un 100% THC et j'ai haï. C'était trop fort, mais surtout, l'effet que ça a eu sur moi, c'était que j'avais un problème avec la temporalité.
On est en quelle année ?
J'étais beaucoup plus amorphe que quand il y avait aussi le CBD. Et j'avais l'impression que parfois, il y avait 2h30 qui venaient de s'écouler en une seconde. Et moi, je me voyais physiquement, tu sais, avancer sur une ligne temporelle, puis reculer, puis réavancer, puis reculer. Et c'était hyper désagréable de ne pas savoir ce que j'avais dit, quand je l'avais dit, si je l'avais dit. Et ça, c'était une perte de contrôle qui m'a plombée, en fait.
Vous habitez dans le coin ? J'y habitais, mais je suis partie à Jumanji.
Et puis, il y a aussi le petit truc qui arrive à plein de gens, je le sais, qui est la petite parano. Et t'as beau savoir que c'est à cause de la drogue et te rappeler que c'est à cause de la drogue, t'as quand même réveillé chez toi un truc. Et moi, les scénarios catastrophes, si tu commences à les réveiller chez moi ou si je commence à les réveiller chez moi, c'est la dégringolade. Ce que j'ai bien aimé dans le premier edible que j'ai mangé, c'est justement que ça m'a rendue joyeuse et ça m'a rendue enthousiaste et dans l'envie de raconter des conneries. Là, j'étais juste assise et je me disais genre, est-ce que je pourrais me relever un jour ? Je ne sais pas.
Banana Kush. Un podcast de Nick, la radio.
Quel a été le déclic en fait qui a fait que tu vas commencer à t'intéresser, à geeker sur le cannabis, à changer d'opinion dessus, jusqu'à finir par tester un edible au THC. Voilà, qu'est-ce qui t'a emmené à commencer à t'interroger, à te dire peut-être que j'ai été un peu con, comme tu disais tout à l'heure, sur le sujet.
Ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est l'argent. non, c'est pas l'argent. Enfin, c'est l'argent, mais c'est pas l'argent. C'est une marque de cosmétiques faite à base de CBD qui me contacte. Et qui me propose une opération avec un voyage de presse et puis une rémunération et la création de contenu. Et moi, dans ces cas-là, en général, j'étais vraiment très stricte sur ma ligne éditoriale où je refusais beaucoup de me montrer en train soit de fumer des cigarettes, soit de boire de l'alcool, parce que je me disais, même si je ne suis pas responsable de la consommation des gens, je n'ai pas envie que quelqu'un de vulnérable me regarde, me voit faire ce truc et se disent d'un coup « Ah, c'est cool parce qu'elle le fait ». Et donc, moi, je lis ces BD et sur le coup, je me dis « Qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc ?» Et donc, je lis le dossier de presse qui dit « Le CBD, c'est issu de la plante de chanvre. C'est le truc qui n'est pas psychotrope. De toute façon, c'est pour des cosmétiques pour le visage. Donc, tout va bien. » Je fais donc ce voyage de presse qui est donc en Bretagne et où on va visiter des champs de cannabis. Et je rencontre un botaniste spécialisé qui est un personnage absolument extraordinaire que tu pourrais pas l'écrire même si t'es le meilleur scénariste du monde, qui a une espèce de légèreté au monde, on dirait un enfant, mais il a ses 60 ans passés et il est passionné par son travail et il nous raconte tout sur le chanvre, il est intarissable. Je suis fascinée par ce que j'apprends et j'entends notamment ce truc qui m'a fait rire, qui est que les plantes mâles qui fécondent les plantes femelles avec le vent, puis une fois qu'elles les ont fécondées, les plantes mâles meurent naturellement pour laisser la place aux femelles de grandir. Et moi, dans ma tête de féministe aguerrie, je suis là. Bah voilà, bah c'est ça en fait. Merci.
Tu peux pas tuer tous les gens qui ne te plaisent pas.
Pourquoi ?
Pareil, je vois que ça prend très peu de ressources en eau, qu'on peut faire des pâtes, qu'on peut récupérer tout, qu'on peut prendre de l'huile, enfin qu'on peut tout faire avec. Et lui-même s'est fait une planche de surf en chanvre.
J'ai l'impression que l'océan ne me veut pas, je sais pas pourquoi. C'est une question de lune.
En parlant plus tard avec la créatrice de la marque, elle venait de sortir une huile hydratante pour le visage et elle me disait, je précise pas sur la boîte parce que j'ai interdiction, mais il se trouve que c'est une huile que tu peux aussi te mettre sous la langue et qui va être quelque chose qui va calmer un peu tes nerfs, les moments où tu es un peu stressé. Et je lui dis, mais c'est pas dangereux. Et là, elle me dit le truc qui a tout changé. Elle me dit, tu sais, ce que tu te mets en externe, quand je dis que ma crème ou que mon huile, elle est défatigante et déstressante, c'est parce que littéralement, elle fait dans toi ce qu'elle fait à l'extérieur de toi. Cette huile va t'hydrater la peau et te la détendre, de la même manière qu'elle va détendre tes états de nervosité, qu'elle va, si tu te masses les muscles avec, détendre tes muscles. Là, d'un coup, la logique me tombe dessus. C'est pourquoi, effectivement, je mets sur mon visage des choses que je ne peux pas manger.
De nombreux appels au centre anti-poison concernent des enfants qui avalent un peu de shampoing ou de savon pour la douche.
Puisque ma peau boit et que ça finit dans mon système. Et là, en gros, ce qu'elle me dit, c'est moi, par exemple, je m'en mets souvent dans le vagin pendant mes règles quand j'ai des douleurs. J'ai pas le droit de le dire, parce que les marques n'ont pas le droit de le dire, parce qu'on est dans un monde où tout le monde dit « c'est la drogue, c'est la drogue, c'est la drogue ». Et moi, je suis en mode « mais oh mon Dieu !» Genre, encore un truc qui aurait pu aider la vie des femmes, qu'on nous a caché littéralement, sur lequel il n'y a pas de recherche. J'aurais aimé qu'on me le dise avant, quoi. J'aurais vraiment aimé qu'on me le dise avant, j'aurais vraiment aimé pouvoir soigner mes crampes de règles. Cette plante, c'était un peu pour moi la métaphore de la sorcière. Ces femmes savent trop de choses sur la santé les unes des autres. Ces femmes ont un instinct. Donc on va les brûler parce que c'est des sorcières. Ça m'a fait le même effet. C'est, elle en sait trop. Elle peut trop en faire. Elle peut trop remplacer des médicaments. Et on ne peut pas se permettre ça. Elle peut trop remplacer des grandes entreprises, des grandes industries. Et on ne peut pas faire ça. Donc on va l'interdire. J'ai un besoin viscéral de le crier sur tous les toits. Et moi je lui dis, ok, toi t'as pas le droit de le dire. Mais est-ce que moi, j'ai le droit de le dire ? Et donc, j'en ai beaucoup parlé en story.
Banana Kush.
We have no bananas.
Sur Nick, la radio.
We have no bananas today.
Du coup, il y a d'autres marques de CBD qui m'ont envoyé cette fois des fleurs, à qui j'ai dit très honnêtement, je vais pas parler des fleurs, parce que ça veut dire fumer, et que fumer, c'est pas un truc que je veux encourager, entre guillemets, les gens qui me suivent à faire ou pas. Alors, ce que j'ai fait quand je fume mes fleurs de CBD, c'est que pour pas le mélanger à du tabac, je le fume à la pipe, tu sais. Okay. Je me suis acheté une petite pipe extrêmement tacky, tu sais. Elle a la couleur de l'essence, tu vois, ou pas. Elle est un peu genre tuning multicolore, mais genre brillante.
La belle pipe de boutique de stoner, quoi, vraiment.
Exactement.
Le truc,
Non, mais je suis allée dans une boutique de stoner et j'ai dit, je vais prendre ça, c'est super. Et donc, je fume mon CBD comme ça.
Pipe.
Ouais.
Okay.
Mais pareil, j'en ai pas fait une habitude fréquente. C'est vraiment genre, je vais fumer mon CBD à des moments où je sais que là... J'ai atteint le stade où c'est nécessaire, parce que j'ai pas non plus envie d'être en accoutumance avec ça, de la même manière que j'ai jamais eu envie d'être en accoutumance avec le Doliprane quand j'avais mes règles.
Ouais. Mais justement, après cette révélation que tu as eue en Bretagne quand tu as commencé à travailler avec cette marque, quels usages tu as commencé à avoir, et du coup, d'après ce que je comprends, tu utilises des huiles, tu fumes à la pipe, est-ce qu'il y a aussi différents types d'administration en fonction du résultat que tu veux avoir, comment ça s'organise tout ça dans ta vie?
J'en utilise en sublingual, en général dans les moments de stress, plutôt le soir. J'en utilise pareil pour mes douleurs de règles, donc c'est toujours la même huile. Là, l'avantage avec le CBD, c'est que je peux très bien commencer mes règles avec une huile à 5% et me dire « Ah, c'est suffisant », si ça l'est pas, une à 10, puis une à 20. Et en l'occurrence, j'ai jamais eu besoin de dépasser 20. J'en bois aussi beaucoup en tisane. Ça me fait l'effet de me dire « Tu le fais pour toi, t'as vu, c'est chouette, c'est cool, puis là, t'es dans un moment de détente, donc vas-y, kiffe ». Et puis j'en fume aussi pour apaiser mon corps, parce que c'est ça que j'ai ressenti en fait quand j'en ai fumé pour la première fois. C'était la magie de l'apaisement du corps sans le cerveau qui est là à faire « ce serait trop cool si... » Et j'étais en mode genre « ah, c'est génial ». Et donc j'en utilise beaucoup pour les journées où j'ai été hyper tendue. Et j'ai aussi acheté une vaporeuse.
Un vaporisateur.
Ouais. C'est drôle parce que pour moi, vaporisateur, ça va être un truc énorme. Et en fait, c'est vraiment une toute petite pipette, tu sais, dont tu chauffes le métal et qui en fait ne va pas donc mettre ta plante en feu. Donc c'est pas la braise que tu fumes, t'as pas de combustion, et tu ne fumes que la vapeur qui en est extraite. Et pour la première fois de ma vie, j'ai goûté le CBD comme ça, et je me suis dit genre, mon Dieu, mais cette saveur...
Délicieux, mes compliments au chef.
Et donc maintenant je suis devenue, je dirais pas une activiste, mais je suis active maintenant dans le fait de dire, il faut que ce soit ok en fait, il faut maintenant que ce soit ok. Je suis fière, dès que j'ai l'occasion, de pouvoir parler de ça, et de dire, il faut qu'on le sache, j'ai quelque chose de vraiment genre d'en colère à l'intérieur de moi qui dit aujourd'hui, genre, ouais, j'ai été con parce que j'ai cru que c'était un truc récréationnel qui était justement ce truc de stoner un peu. Et en fait, maintenant, je suis là genre, mais grave, mais parlons-en au moins. Avant d'en consommer, vraiment parlons-en. Et dès que j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle.
Et elle en parle avec passion, avec engagement. C'est quand même fou cette trajectoire, cette remise en question.
Une histoire d'éveil finalement, presque une rédemption j'ai envie de dire. En tout cas une belle histoire, une belle conclusion pour cette troisième saison de Banana Kush.
Une conclusion ?
Ben ouais Camille, ça y est, c'est fini. La saison 3 touche à sa fin.
Tu veux dire que... c'est les vacances ?
Maman, qu'est-ce que ça veut dire en vacances ?
Et ouais, c'est le summer break de Banana Kush, mais on se retrouve en septembre, évidemment, pour une quatrième saison. Alors profitez de l'été pour rattraper tous les épisodes que vous n'avez pas encore écoutés, pour réécouter vos anciens préférés, pour les faire écouter à tous vos potes pendant la bronzette.
Pour nous mettre des étoiles et des commentaires aussi, hein, des commentaires dithyrambiques sur toutes les plateformes, parce que oui, c'est l'été, vous avez le temps. Mais évidemment, on va pas vous laisser comme ça. Avant de quitter Marion Séclin, on l'a soumise à l'épreuve, à la terrible épreuve.
Vous la connaissez, c'est la banane de fin.
Alors restez bien jusqu'à la fin du générique.
Ciao.
Blanche-Neige, Sticky, Trip et Joint, Hervé voyage au bout de l'acide lysergique, dit-il, la mine et la nuit.
Nous revoilà, on est toujours avec Marion Seclin et on va maintenant te soumettre à la terrible épreuve de la banane de fin. Par laquelle on conclut tous nos podcasts. On va te demander de choisir, ça va être un dilemme vraiment très difficile entre
surtout
cette banane jaune qui a toujours son étiquette, hop,
bien sûr,
ou cette banane verte avec laquelle souhaites-tu repartir ?
Tu sais quoi ? D'après les réponses que je vous ai données, vous pensez que je vais partir sur la banane jaune dont je me délecterai au goûter. Mais en fait, j'ai bien envie, juste pour l'avoir et le garder, de prendre plutôt la banane verte et de savoir qu'elle existe et qu'elle est là, et que quitte à ce que genre, je la consomme de manière microscopique pendant 8 ans, que je vous rappelle dans 8 ans en disant j'ai enfin fini la banane verte, donc je vais prendre la banane verte pour devenir moins con encore qu'avant.
Puis on enregistrera un autre podcast dans 2 ans et on verra où t'en es.
Ouais, ça se trouve je serai
ouais, alors les gars, je vous propose un bang. Ouais.
Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr.
Alors monsieur, vous la préférez comment, vous, votre banane ? Plutôt sucrée, hein ? Et vous les filles ? Quoi ? Amère ? Nous ne parlons pas de la même chose, vilaine fille. Laisse-moi manger ta banane.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, where are you, the police?
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Laisse-moi goûter ton fruit, oh oui. Laisse-moi mon quart d'heure vegan. Laisse-moi t'entendre dire oui. T'entendre dire oui. T'entendre dire oui. Oui, oui.